C'est une petite salle qui a vu défiler des dizaines de maîtres du jazz. Elle a changé 3 fois d'adresse, mais son nom est connu de tous les passionnés. Ici se sont produits Miles Davis, Michel Legrand, Nat King Cole ou encore plus récemment Stacy Kent. Le Birdland est une institution à New York et une référence du jazz mondial. Au sous-sol, une petite salle pour les artistes coup de cœur. Au rez-de-chaussée, la scène mythique pour les artistes confirmés. Dans ma lettre d'Amérique, je vous emmène au Birdland avec une invitée qui connaît très bien ce lieu. Elle a pu s'y produire à plusieurs reprises. Prenez place pour un voyage musical dans un univers de légende. Hi everyone, je suis très heureux de vous retrouver cette semaine à nouveau puisque on est dans un endroit très particulier ici. Je suis sorti du métro à Times Square, vous le savez c'est en plein cœur de Manhattan au sud de Central Park. J'ai pris quelques petites rues ici, je suis passé devant notamment le siège du New York Times, puis je suis remonté quelques rues plus haut pour rejoindre mon invité aujourd'hui. Mon invité, je vous dis ça parce que c'est pas tous les jours qu'on a une invitée dans ce podcast, mais surtout, je suis rentré dans un endroit assez mythique ici à New York. Cet endroit s'appelle le Birdland. C'est un club de jazz dont la rue, vous pouvez le voir, il y a marqué Birdland, mais surtout on est rentré par l'entrée des artistes. Pour vous décrire un peu l'ambiance de cette salle, eh bien, il y a une petite scène devant moi qui n'est pas très grande au final, avec un très long piano à queue de la marque Yamaha. Vous savez, le piano à queue très brillant qu'on peut voir bien souvent dans des clubs de jazz avec deux gros haut-parleurs. Ces haut-parleurs qui permettent aux artistes de s'entendre. Les autres haut-parleurs, on ne les voit pas, mais on les imagine très bien derrière. Cette salle n'est pas très grande en réalité. Elle me rappelle un petit peu, eh bien, tout simplement, le Moulin Rouge. Disons que ça fait un quart du Moulin Rouge, mais tout autour, eh bien, vous avez des tables rondes avec notamment des nappes blanches et tout autour de cet arc de cercle, il devrait y avoir à peu près, j'imagine, une centaine de tables ici, eh bien, sur les murs, vous avez des photos et bien sûr, ces photos, il y a tous ceux et celles qui sont passés ici dans le Birdland, dans ce club de jazz. Alors, je ne vais pas vous laisser attendre trop longtemps et je vais vous présenter mon invité aujourd'hui qui fait de la musique depuis longtemps, qui écrit, qui chante et qui fait du jazz. Bonjour, Margot Sergent.
Bonjour Arnaud.
Cette salle, je l'ai dit en introduction ici, elle est mythique.
C'est une salle effectivement majeure de la scène du jazz new-yorkaise, mais aussi mondiale, parce que beaucoup d'artistes internationaux se croisent. On peut penser au Brésilien Marcus Valle, on peut penser à Stacy Kent.
Pas une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racine. C'est un peu solitaire, c'est un éclat de verre, c'est la vie, le soleil.
Cyril Aimé, enfin toutes les nationalités se croisent et absolument merveilleux. Ce que je trouve particulièrement important de décrire dans cette salle et de cette institution, c'est que Gianni Valenti, qui est un des cofondateurs et un des propriétaires, insiste encore pour avoir un équilibre dans sa programmation. C'est une programmation qui fait une place assez large, effectivement, aux artistes qui ont une reconnaissance internationale déjà très établie. Mais voilà, je suis passée de simplement être quelqu'un du public à être faire partie du programme, parce que Gianni fonctionne encore au coup de cœur. Il laisse encore la chance aux jeunes artistes qui n'ont pas encore leur place dans le métier, qui sont pas encore très établis, d'avoir leur premier pas, de faire leur premier pas sur une scène majeure. Donc il a créé deux salles, la salle du haut dans laquelle nous sommes actuellement, c'est la salle, on va dire, principale, le Birdland Jazz Club. Mais en 2019, Gianni a aussi créé une nouvelle salle qui est au sous-sol, dans laquelle je me suis déjà produite, je pense, 4 fois. Voilà, et je vais encore me produire en juin prochain. Et la seconde salle s'appelle le Birdland Theater. The apartment is
quand vous êtes venu ici en tant qu'artiste vous produire. Vous avez la liste et vous voyez physiquement tout autour de nous tous ces tableaux de tous ces gens qui sont passés ici sur cette scène à quelques mètres de nous. Les artistes doivent se produire à une dizaine de mètres d'ici. Vous avez ressenti quoi en tant qu'artiste, en tant que Française aussi, quand vous êtes arrivée ici dans ce lieu si mythique du jazz américain et du jazz mondial ?
Bah, j'ai ressenti évidemment une immense gratitude. C'est un honneur absolu de faire partie de cette histoire, puisque en invitant ces artistes, depuis la création du club, Gianni et le club en lui-même écrit l'histoire du jazz en quelque sorte. Donc en faire partie... C'est à la fois très intimidant parce que quand on voit des Charlie Parker au mur, on se dit mais c'est quand même un petit peu fou de faire partie de cette histoire-là, en tout cas même à une échelle très très petite. Je dis simplement c'est très inspirant, c'est très intimidant et très motivant. Voilà, pour devenir chaque jour une artiste meilleure, avec plus d'expérience, plus de compétences, plus de finesse. L'histoire du jazz, c'est une histoire humaine. C'est très chouette d'avoir l'impression de faire partie d'une famille.
Bah c'est vrai, elle est présente aussi les soirs ici, quand il y a ces représentations, ces concerts dans un... Vous le dites vous-même, l'impression de faire partie d'une famille. On dit d'ailleurs un club de jazz, on ne dit pas une salle de jazz, mais c'est un club de jazz. Et c'est évidemment cet esprit qu'il y a ici. Vous l'avez dit aussi, il y a deux salles. On est dans la salle du haut. Tout à l'heure, vous m'avez montré la salle du bas, là où vous vous êtes produit. Il y a à peu près combien de personnes dans le public en bas dans la salle, par exemple ?
Je pense que la jauge est à 100 personnes. Oui. Et celle-ci, celle dans laquelle on est actuellement, doit être à 130, quelque chose comme ça. Donc, ce ne sont pas des grosses salles. Ça permet effectivement d'avoir un contact assez direct avec le public et avec l'artiste. Donc, quand moi, je faisais partie du public, ça me permettait de me sentir très proche. Et j'ai le souvenir d'avoir assisté à un spectacle de Marcus Valle, parce que je suis très attirée aussi par la bossa nova et la culture brésilienne en général. Et de l'entendre jouer Summer Samba à un mètre de moi, c'était très émouvant.
Você viu só que amor, nunca vi coisa assim. E passou, nem parou, mas olhou só pra mim. Se voltar, vou atrás, vou pedir, vou falar. Dizer que o amor foi feitinho pra dar.
Inversement, quand je fais mon show, effectivement, le Edith Piaf Experience, que j'ai donné au moins, je pense, 4 fois ici à Birdland, le fait de pouvoir me sentir proche du public, c'est extraordinaire. Et c'est ce que je dis dans mon spectacle. Je pense qu'Edith Piaf n'est jamais rentrée dans un star system où elle a voulu se mettre loin de son public. Elle venait du cabaret et elle a toujours gardé cet état d'esprit, même à l'Olympia, de s'adresser à chaque personne du public comme si... elle s'adressait à elle en particulier. Enfin, elle était toujours très proche de son public et je trouve que justement un spectacle sur Edith Piaf version jazz avait complètement sa place à Birdland et c'est pour ça que Gianni a accepté ma candidature.
À quoi ça sert l'amour ? On raconte toujours des histoires insensées. À quoi ça sert d'aimer ? L'amour ne s'explique pas. C'est une chose comme ça qui vient on le sait d'où. Et vous prend tout à coup.
Moi... Vous avez sorti un album le 8 décembre dernier. Expliquez-moi déjà la jeunesse de cet album-là et comment vous en êtes arrivé là.
Oui, alors c'est extrêmement joyeux de me dire que cet album-là existe. Alors cet album, c'était une idée que j'ai eue il y a 9 ans quand je suis arrivée aux États-Unis. Quand j'ai commencé à vraiment prendre la composition de chansons très, très au sérieux. Qu'est-ce qui s'est passé? Les chansons étaient déjà prêtes, en quelque sorte, il y a 9 ans. Mais sauf que dans ce parcours plein de naïveté, j'ai rencontré un producteur qui n'a pas tenu ses promesses, qui m'a pris beaucoup d'argent. Et je me suis aperçue, en fait, que les personnes qu'on rencontre et les personnes qu'on laisse rentrer dans notre cercle personnel, parfois, vous donnent... plus de clés, plus d'assurance, vous font beaucoup plus grandir, vous font grandir en fait dans un état de paix intérieure, de confiance, d'optimisme, plus parfois que la famille de sang. Ces personnes-là, je les ai rencontrées. On a vécu des choses un peu atypiques. Je peux prendre un exemple, par exemple, une jeune femme qui s'appelle Jessica, que j'ai rencontrée dans le désert. Et voilà, cette jeune femme m'a appris beaucoup. On a beaucoup réfléchi ensemble, on a beaucoup évolué ensemble. Et j'ai écrit une chanson pour elle, pour la remercier de m'avoir fait grandir, de m'avoir fait comprendre des choses. J'ai l'impression qu'elle m'a aidée à me connecter à ma douceur.
Comment elle s'appelle cette chanson ?
Keep the moon in mind.
I know all your city fancies, high heels in the desert, in your sacred dresses, always wishing on a shooting star, unreachable.
Garde la lune dans ton esprit, en tête. Voilà. Et ce qui s'est passé quand je suis arrivée ici à New York, moi je voulais m'établir en tant que musicienne de jazz. Mais je me suis confrontée à un bon problème, c'est que je me suis aperçue que les Américains, je ne sais pas, en tout cas les New-Yorkais que j'ai rencontrés, avaient un amour pour le répertoire français que je n'avais même pas rencontré en France. C'est-à-dire que moi, en France, quand je disais « Ah, mais je vais faire un spectacle sur Edith Piaf », »,« Ah oui, mais t'es sûre, mais c'est un peu papy-mamie tout ça. Bon. » Et aux États-Unis, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit « Mais... oh, mais c'est vraiment toute ma jeunesse où ma mère a étudié le français quand elle était à l'université. Elle adore parler français, elle adore la culture française. Et je pense qu'il y a une appréciation, bon, peut-être un petit peu fantasmée, hein, il faut bien être d'accord là-dessus, de certaines personnes aux États-Unis pour la culture française. Et à la fin de chaque spectacle, quelqu'un venait me voir en me disant oh, ça vous embêterait pas de chanter La vie en rose. Ce qui était absolument adorable et je comprenais d'où ça venait et c'était très, très touchant et ça me faisait très plaisir. Donc avec, voilà, plaisir, je jouais La vie en rose.
Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose.
On va revenir un peu à cette histoire du Birdland ici. En quelques mots, on les voit autour de nous, mais si on doit donner quelques noms de tous ces artistes qui sont passés ici à quelques mètres de nous, il y a qui par exemple ?
On va commencer évidemment par Charlie Parker, hein, qui a été surnommé The Bird, hein, qui a donc donné le nom au lieu. Mais aussi Dizzy Gillespie, à Miles Davis. Voilà, la liste est absolument infinie. On parle de références de personnes qui malheureusement ne sont plus parmi nous. Mais l'histoire continue et Gianni continue à écrire l'histoire du jazz.
Et les plus récents aussi d'ailleurs, qui se produisent encore aujourd'hui, bien sûr.
Bien sûr, Cyril Aimé, on a Stacy Kent, Marcus Vallée, que j'ai vu récemment, avec grand plaisir.
Eh bien, comme vous le savez, cette lettre d'Amérique, alors on ne peut pas la signer, en tout cas avec un autographe, puisqu'on est à la radio, c'est du son. Alors pour la signer, généralement on termine en musique. Évidemment, aujourd'hui ça s'y prête bien. Ce ne sera pas un titre de vous, Margot Sergent, parce qu'on vous a écouté tout au long du podcast. Mais je vous propose de signer cette lettre d'Amérique avec une chanson de votre choix. À mon avis, c'est pas simple, surtout quand on est musicienne comme vous, de choisir un titre comme ça. Allez. Si on devait en choisir un, ce serait quoi ?
Oui, c'est une question très difficile, parce que pour monter mes programmes, des choses que j'aime le plus au monde, c'est faire des recherches sur les chansons qui sont moins connues. Je travaille en partenariat avec un pianiste extraordinaire qui s'appelle Peter Yarin, qui a joué dans beaucoup de musique de films, parce qu'il est considéré comme l'un des pianistes les plus, au courant, enfin en tout cas les plus aguerris pour ce jazz traditionnel, ce swing. Et récemment, il m'a donné à travailler ou à rechercher ou à explorer une chanson qui s'appelle « Guilty ». La version préférée, en tout cas, que j'écoute en boucle en ce moment, est Ella Fitzgerald, évidemment. C'est très compliqué de trouver des versions qui seraient en compétition, qui seraient meilleures qu'Ella, parce qu'Ella, quand même, c'est extraordinaire. Plus je l'écoute et Je sais que c'est une des chanteuses les plus connues au monde et les plus représentatives du jazz, mais plus le temps passe et plus je comprends pourquoi. Et voilà, sa version de Guilty est absolument irrésistible, en tout cas pour moi.
Et bien voici Guilty d'Ella Fitzgerald. Thank you and goodbye.
Is it a sin? Is it a crime? Loving you, dear, like I do. If it's a crime, then I'm guilty. Guilty of loving you. Maybe I'm wrong, dreaming of you. Dreaming the lonely night through. If it's a crime, then I'm guilty. Guilty of dreaming of you. What can I do? What can I say? After I've taken the blame. You say you're through. You'll go your way, but I'll always feel just the same. Maybe I'm right, maybe I'm wrong, loving you, dear, like I do. If it's a crime, then I'm guilty.
D'écouter Une lettre d'Amérique. Retrouvez cet épisode et tous les précédents sur RTL.fr, sur l'application RTL et sur vos plateformes d'écoute préférées.